Mais même avec Gold, je pense que...
Voilà. Alors, je crois qu'on va commencer par la question de Gabriel.
Non, mais... Désolé, mais j'ai rien à dire.
J'avais fait ça.
Alors, il y a Florent. Bon, il y a Florent qui avait deux questions.
Non, mais
pas du tout. Il faut que je rembobine dans ma tête un peu, mais je sais pas du tout en fait. Ce que tu disais me faisait penser à un souvenir, je crois que c'est Rosalind Krauss qui raconte une anecdote. Elle est dans un musée avec Stella, et il y a un étudiant des Beaux-Arts qui vient de les voir et qui dit « Mais Stella, pourquoi vous faites des bandes noires quoi? Après tout, c'est nul, tout ça ». Et lui dit, écoutez, je passe mes journées à regarder des Velázquez et quand je rentre chez moi, je fais des bandes. Je voudrais faire du Velázquez, mais je fais des bandes avec de la peinture pour voiture. Et que donc, Rosalind Krauss ne commente pas en fait cette anecdote, mais ça laisse supposer en fait qu'il y a une espèce de disjonction entre quelque chose qui serait comme l'idéal et la nécessité. C'est-à-dire que Stella se met dans la position qu'il est obligé en quelque sorte de peindre des bandes noires, non pas parce qu'il les aime, mais parce qu'il doit le faire, quoi. Et je sais pas, en fait, si cette affaire de matériaux dont on parle ne touche pas à ce point précis. Enfin, c'est... Voilà, donc je sais pas du tout, mais attends, juste... dans la mesure où cette affaire de sensations et cette façon de se laisser prendre par l'époque, on va dire, je me demande si une bonne part du travail ne consiste pas à faire une opération de sélection, synthèse, d'analyse, etc. vis-à-vis d'éléments en fait qui peuvent être profondément désagréables en fait, et que c'est sur ce point-là que il y aurait de la lutte. Je sais pas. Là encore, c'est terminologiquement du problème.
Il y a une chose, c'est que dans l'anecdote que tu racontes et qui est rapportée par Michael Fried.
C'est Fried, en fait, oui.
L'idée, c'est que Velázquez ayant fait ce qu'il a fait, Stella ne peut plus le refaire. C'est la question de la répétition.
Oui, oui, oui.
Et c'est la question du modernisme, du progrès en art, qui conduit les artistes à renouveler les propositions qu'ils font. C'est ça, en tout cas. Mm-hmm. C'est la question.
Ok.
Alors, est-ce que c'est des luttes avec les matériaux, enfin, avec quelque chose vraiment anonyme
Non, oui. Choses, En fait, pour essayer d'être clair sur ce point, j'ai essayé de comprendre comment une pratique, enfin la mienne en tout cas, pouvait se, puisque c'était le sujet aussi du séminaire, pouvait se comprendre dans l'histoire des luttes. Et on a employé dans ce séminaire, j'ai entendu les mots libération, désaliénation, émancipation, je ne sais quoi. Donc c'est des concepts qui supposent qu'on trouve des issues. Et j'ai essayé de savoir où elles opéraient. Et mon sentiment, c'est qu'elles opèrent dans l'élaboration du matériau. Où ont-elles lieu? Dans l'élaboration du matériau. Voilà. Mon sentiment, par ailleurs, c'est que dans l'élaboration de ce matériau, bien évidemment, il y a des savoirs relatifs à l'époque. Parce que, bien évidemment, les savoirs inclus aujourd'hui dans la peinture ne sont pas ceux d'il y a 15 ans, par exemple, pour le dire rapidement. Les sensations que j'avais et qui étaient relatives à un matériau étaient produites, d'une certaine manière, par ces savoirs qui me disaient, finalement, d'où venait et comment avait été constitué ce matériau. Comment donc, à partir de ce savoir, on l'emploie et quelle est sa technique, et du coup, quel type de sensation il va nous provoquer? Eh bien, dans ce moment de l'élaboration du matériau, ma façon, ma méthode, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est au lieu de chercher à corriger ce savoir, ces façons d'utiliser, ces façons de fabriquer les sensations, de le préciser selon ma bonne connaissance de moi ou de la bonne connaissance de l'aujourd'hui,
plutôt que de faire ça, puisque je pense que ici on serait encore dans un rapport identifiant, hein, je préfère y mêler, y fusionner quelque chose d'autre avec. Alors, qui, dans l'instant où je le dis, va s'opérer sur le mode de l'aléatoire, mais lorsque je le réinstalle sur la continuité de ma pratique, et c'est ce point que je n'ai pas abordé au fond, hein, et qui est très long et que je préfère... Enfin, j'ai commencé à le bosser, mais bon, là... se réinstalle dans un système d'habitude. Bon, voilà, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que, pour moi, là où je peux opérer des écarts, c'est précisément pas en me servant de ma volonté pour faire un progrès ici sur telle façon d'utiliser, pour éveiller une conscience sur ce point-là qu'on n'aurait pas vu, etc., etc., mais plutôt de faire fonctionner la machine de la pratique, de dilater l'instant perceptif, lequel est très rapide si je fonce vers l'effectuation des savoirs dans les matériaux, et lequel est beaucoup plus lent si je laisse tourner les choses et j'en profite, en fait. Hein, et tout à coup, il y a des choses qui se rattachent de ma petite enfance, de n'importe quoi, d'expériences qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de vivre. Hein. J'ai pris l'exemple du vernissage, parce que l'exemple du vernissage, bon, d'abord, c'est très loin de moi, c'est des matériaux que je n'utilise pas. Et c'est des matériaux qui sont très loin de matière formée. Quelque sorte, c'est, hein. Et donc, quand un artiste très post-conceptuel, s'il veut faire une pièce avec un vernissage, il est bien obligé d'en avoir une image. Hein, pour, et bien cette image, elle se constitue selon des discours et des façons de comprendre ce que c'est qu'un vernissage, ce qu'il est dans le cadre de la communauté artistique, qu'il ressemble à une première communion ou à un mariage, etc. etc., etc. Et après, on tombe aussi sur des sensations très contingentes. Et qui disparaissent extrêmement vite si on n'y fait pas gaffe. C'est-à-dire qu'au fond, dans cette expérience perceptive, elles s'évaporent très très vite parce qu'elles n'ont pas de légitimité là. Elles flottent là, on ne sait pas quoi en faire, ça. Et s'il faut que je compacte le tout pour pouvoir me servir de cette image ensuite, donc de ce matériau en quelque sorte, pour pouvoir travailler, eh bien, quand je compacte, on a tendance, ou le pouvoir a tendance à nous faire virer tout ce qui ne concerne pas les savoirs par lesquels on a l'habitude d'en parler, fond, hein, de considérer cette question et d'en éprouver sensiblement quelque chose, c'est-à-dire ça va ressembler à une fin de soirée, à une boîte de nuit, machin. Eh bien, dans cette question du vernissage, si on la fout dans un espace pratique, on va s'apercevoir que va se greffer des trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Bien, je pense que là où on peut trouver des issues, c'est dans ces choses-là. C'est-à-dire non pas parce qu'on les a choisies et que c'est à partir d'une certaine connaissance de nous qu'on décide que ben non, là c'est plus précis, je vais faire ça, là je vais faire ça, je vais faire un écart par rapport à la pièce d'un tel, etc., etc. Mais de prendre le risque de ne pas être identifiable. Et du coup de faire un monstre, de faire un matériau illisible.
Bonjour, Vincent Deslandres. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris dans ton exposé tout à l'heure et j'aimerais que tu reviennes dessus si c'est possible. C'est à un moment où tu as parlé de l'évolution de notre pensée, que tu as comparé à l'évolution de notre sensibilité. Et tu as dit que l'évolution de la sensibilité était assez radicale, en tout cas d'une amplitude beaucoup plus forte que l'évolution de la pensée. Mais moi, je ne sais pas très bien comment on peut distinguer aussi nettement l'une de l'autre. Surtout qu'avant, tu as insisté en disant que la sensibilité n'était pas organique, qu'elle était transformable, qu'elle était fabriquée, etc. Et j'aurais une autre question. C'est le tableau qu'il y a dans, avec le chewing-gum qu'il y a dans le catalogue n'est pas celui qu'il y a à la Maison Rouge. Non. Et alors ça, c'est une question un peu grossière, mais est-ce que tu peux juste nous parler de ce que c'est de, d'une certaine manière de répéter un geste qui est assez proche, puisque les deux tableaux sont très différents dans la couleur, mais en même temps... Mais si tu peux en parler un petit peu.
D'abord, effectivement... C'est parti d'un sentiment, c'est parti d'une connaissance. C'est une expérience personnelle en fait. Après, je ne sais pas si du coup elle est partageable, mais j'espère que je pense que oui. Enfin, du coup, c'est que j'ai l'impression que la forme de ce, par laquelle je traduis ma pensée, et je parle bien de pensée, c'est-à-dire du moment où je fais vraiment l'effort de penser. Enfin, il ne s'agit pas simplement de. Bon, voilà. Parce que j'écris très peu, et chaque fois que j'écris, c'est un effort. Je me sers de l'écriture pour préciser, clarifier les choses. Voilà. Et que donc. Au plus loin que je puisse me souvenir, et peut-être aussi, excuse-moi, je rajoute ça, c'est peut-être dû aussi à ce que Kant dit de la forme subjective, du moins intuitionnée, qui n'est finalement qui est prise dans le temps. En fait, hein. C'est-à-dire que si j'essaye de me remémorer ce que je pensais, j'ai l'impression que j'ai toujours pensé la même chose. Alors, je ne l'ai pas traduit de la même manière, j'ai traduit des fois de manière totalement erronée. Ben non, vas-y.
Mais ça, je l'entends.
D'accord.
Dans l'exemple que tu as pris, du petit.
ici, manteau en cuir, verre magique, ou de, c'est surtout la sensibilité. Je ne vois pas comment la sensibilité est séparée de la pensée.
Alors, voilà.
La sensibilité, elle est imbriquée dans de la pensée.
Elle est imbriquée, mais elle n'est pas la même chose. Sinon, les deux mots n'existeraient pas. D'accord. Il y a deux mots. Et donc, où est la distinction entre ces deux mots? C'est là où il faut essayer de réfléchir. C'est-à-dire qu'effectivement, une sensibilité mémorisée, donc une sensibilité qu'on a déjà produite, et qui donc va infléchir et fabriquer, va donner une inclinaison à la sensibilité par la suite. Donc, une sensation mémorisée peut devenir l'objet d'une pensée, peut s'élaborer, peut devenir le matériau d'un mouvement de pensée.
Et même la sensation mémorisée, elle contient la pensée.
C'est-à-dire que mémoriser quelque chose suppose un effort de pensée. Pas forcément. Je pense qu'on mémorise aussi des choses en prenant précisément de manière automatique, c'est-à-dire selon les savoirs déjà inclus dans les choses.
Mais c'est de la pensée, ça.
C'est de la... Alors, oui. Alors, justement, c'est de la pensée. Oui, c'est de la pensée. Mais précisément, cette pensée est plutôt. Je ne crois pas que c'est de la pensée, en fait. Voilà. Non, pour dire mon sentiment, je ne crois pas. Je crois que c'est une technique de pensée, mais ce n'est pas de la pensée. Enfin, je veux dire, c'est un moyen pour penser, mais ce n'est pas de la pensée. Et inversement. Une pensée produite à un moment donné peut devenir dans le futur une sensation, peut être mémorisée comme sensation, mais sans considérer ce que la mémoire peut faire par la suite. Je sais très bien à un moment donné que je suis dans un espace de sensation ou je suis dans un processus de pensée. C'est-à-dire que je me sers dans un processus de pensée de différents types de sensations que j'enchaîne ou que j'essaye de faire correspondre, mais une sensation, je ne pense pas le verre lorsque ce verre me procure une sensation. Voilà.
Il est vrai qu'on est dans de la paillette, j'ai entendu développer, parce que c'était tout ce qui arrivait immédiatement avec la paillette, alors ce n'était pas de la pensée avec un grand P, mais c'est pas de la pensée.
C'est pas de la pensée que j'effectue, c'est de la pensée qui m'est déjà donnée.
Du
rédicelle, des phrases, des rumeurs, du rédicelle, c'est-à-dire des rumeurs qui sont là. C'est pas de la pensée. Quand les mecs nous sortent, par exemple, un symptôme de l'époque et nous disent voilà l'époque, il n'y a pas de pensée. C'est déjà fait, c'est déjà écrit. Voilà. La pensée, c'est quelque chose qui est un mouvement et qui élabore différentes sensations qui sont immédiates, donc qui sont données immédiatement par les savoirs contenus dans le stimuli visuel, ou qui sont médiates, c'est-à-dire où je dilate ce temps, plus ou moins. Volontairement ou pas volontairement, c'est-à-dire qu'il y a des fois je tape sur des choses qui me concernent de très près, mais on n'a qu'à faire l'expérience, en fait, vous avez ça, paf, vous fermez les yeux, il vous faut un certain temps pour reconstituer cette sensation. Et ce temps-là, c'est une procédure par laquelle la mémoire part à rebours des traces qui sont laissées par le travail de la sensation lorsque j'ai fabriqué cette sensation-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Non, c'est pas. Ouais, c'est des choses que j'essaye de bien évidemment. Moi je suis pas. Enfin, c'est pas à partir de connaissances établies que je peux dire oui, bien sûr, des conneries, je sais pas. Hein, mais il me semble que en tout cas, c'est un sentiment qui m'est assez précis. C'est-à-dire que je crois pas que l'on pense lorsque l'on constate ce que tout le monde constate dans un. De cette bouteille en plastique, je peux voir le plastique, l'emballage, je peux voir des tas de choses, des tas de discours dans toutes les choses qui sont autour de nous. Et je ne considère pas que ce soit de la pensée. C'est déjà pensé. C'est pensé sans moi. Ah oui, sur le chewing-gum. Et donc, c'était quoi exactement?
Tu sais que c'était pas du tout la même chose.
Oui, non, c'était deux heures. Après, la différence, elle est dans l'intérieur d'une pratique, évidemment. Hein, comme je vous disais, il y a des fois, je suis pas content d'un truc, je reprends, je refais, donc j'opère un écart là, et puis est-ce que. Voilà. Et puis aussi, les chewing-gums, c'est des moments qui correspondent à des moments dans la pratique qui sont différents. C'est vraiment des moments d'ennui, des moments de découragement. Hein. J'en fais très peu, j'en ai fait 12 dans ma vie, dans mes pièges, ça fait un moment que j'en ai fait. Enfin, je l'ai fait très peu, je l'ai fait vraiment à des moments où finalement mon activité se passe de mes mains. Enfin, je suis dans un rapport de mastication, quoi, de rumination, et de goût, et de regard. Parce qu'aussi, là, dans l'activité d'un artiste visuel, enfin en tout cas la mienne, il y a énormément de temps à regarder les choses. Voilà.
Et je crois que j'en ferai toute ma vie, parce que je crois que
voilà,
c'est...
Voilà, tu n'as pas fait les 12 à la suite.
Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, bon, j'en ai fait plusieurs au début, je veux dire, j'en ai fait 5-6 au début. Et après, à d'autres moments dans mon travail, j'ai éprouvé la nécessité d'en refaire un. Mais à chaque fois, précisément, ça bouge, ça change de point de vue, de perspective, selon les pièces que j'ai faites avant ou pas, selon aussi les matrices dans lesquelles ça se prend. Je parlais de Pollock à un moment, de Manzoni à un autre, de même Van Gogh à un autre moment, enfin de l'empattement, enfin voilà. C'est...
Moi je voulais mettre des choses en parallèle en fait pour essayer de me clarifier ce dont on parle. En fait, par rapport à la semaine dernière.
J'ai pas entendu.
Oui, oui, non mais ouais. Mais je peux en parler quand même. Oui. Non mais j'avais l'impression, pour pouvoir me situer Pierre Huyghe, j'ai l'impression d'un mélange entre Montaigne et Diderot, en fait. Parce que d'un côté, il y avait le Montaigne de je suis moi dans l'écart différentiel qu'il y a entre mes différentes figures. Et en même temps, à côté Diderot, de Jean-Jacques le fataliste, j'écris que j'écris. Et donc je crée un écart. Et toi, en t'entendant, il y a trois quarts d'heure, quand tu essayais de décrire cette espèce d'enchaînement d'opérations, enregistrement, simplification et puis pratique, c'est ça voilà, je me suis dit, c'est vachement proustien. Et parce que mine de rien, donc il y a tout ce truc sur la sensation, etc., mais il y a un parti pris qui est hyper sensualiste, au sens du velours qu'on caresse, des choses comme ça. Et tu parlais bien quand même de rapports fusionnels avec la sensation, et puis d'un élargissement de la temporalité dans la pratique, etc. Et en fait, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit quand je pense à ça. C'est, premier truc, tu parlais en fait d'un enregistrement, et la manière dont je l'entends, c'est il y a un immense truc qui se déverse sur toi, qui est finalement une immense une mémoire, mais qui est comme tu disais, c'est un savoir infini en puissance. Et donc, mine de rien, ce qu'il faut faire, c'est il y a pas mal de choses à évacuer. Et donc, est-ce que c'est la pratique qui est cet opérateur d'éviction? Faut discriminer, faut critiquer, comme on disait. Et puis l'autre question, qui est une question un peu plus critique, au sens de phase critique, c'est je ne vois absolument pas où est-ce qu'il y a de la lutte là-dedans. Ou alors c'est que je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'on met derrière le mot lutte.
Je vais répondre aux deux questions. Dans l'ordre, pas dans le dessin. Sensualiste, oui. Moi, j'ai commencé à faire de la peinture précisément parce que je me suis rendu compte qu'aucune œuvre ne l'est pas. Enfin, c'est mon point de vue. Hein, voilà. C'est-à-dire que, et si j'ai pris comme exemple des matériaux immatériels, hein, j'ai pris l'exemple par exemple du vernissage, c'est précisément parce que je crois que même lorsqu'on a un matériau immatériel, on l'appréhende par les sens. Lorsqu'on est dans un rapport pratique, obligatoirement, il faut pouvoir le projeter, il faut pouvoir lui donner un ton, une qualité. Sinon on ne peut rien construire, c'est impossible. Je veux dire, le problème c'est que on a beau croire qu'on est dans un rapport de connaissance, de citation, de machin, de ce qu'on veut, tout ça on l'apprend par nos sens, et de toute manière on n'en passera pas par autre chose parce que c'est la mémoire qui l'exige. Voilà. Ensuite, où il y a lutte? Précisément, j'ai essayé de montrer en fait que c'est une lutte négative dont il est question pour moi. Enfin, je veux dire, il s'agit de déléguer. Enfin, c'est des techniques d'escroc, quelque sorte, et de tricheur. C'est-à-dire que dans la totale détermination par lesquelles les savoirs et les pouvoirs se mettre en œuvre et s'exécutent dans la façon dont on mémorise les matériaux, la seule solution que j'ai, c'est de les pourrir, au fond. C'est-à-dire, au fond, de leur coupler des choses en plus, de rajouter des choses en plus. C'est un effort considérable, en fait. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, parce que ça doit pouvoir fusionner. C'est-à-dire que, à la sensation que me procurent des paillettes, qui est, en quelque sorte, dite par les milliers de tableaux faits fait avec, pardon, les shows des drag queens, j'en sais rien, j'en veux pas. Pour arriver à glisser là-dedans quelque chose d'hétérogène, c'est très difficile pour pouvoir le mémoriser.
Est-ce que c'est la même opération que mettre une machine à coudre sur...
Mais précise, mais ça, on parle, là, ce dont on parle ici, c'est d'une œuvre, d'une image. Hein, qui consiste à faire une pièce en mettant je ne sais quoi sur je ne sais quoi, et donc un parapluie, je crois, c'est le parapluie sur la machine à coudre. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que dans la sensation que je me fabrique du parapluie, et que donc dans ce que ce parapluie va me proposer comme action dans la pièce, je glisse quelque chosequi concerne, j'en sais rien, moi, les baleines à bosse. Enfin, je dis ça comme ça. Hein, voilà, c'est
mais
très
différent. Comment est-ce que tu vas avoir, disons, la certitude que ce n'est pas du refoulé?
J'en sais rien.
Mais
à ce moment-là,
les cartes ne fonctionnent pas.
Mais je ne sais. Mais je
la baleine à bosse qui rentre dans ton matériel.
Oui, oui.
Peut-être qu'elle vient d'une pub que tu as dans le métro.
Mais pourquoi pas? Et alors? Et alors? Où est le problème?
T'es autant dans le circuit en fait des images.
Mais je ne sors. Mais l'art ne peut en aucun cas transcender la forme de la marchandise. Je fais des marchandises. Je veux dire, cite-moi, enfin, c'est impossible, les artistes, il faut arrêter avec cette affaire de croire que l'objet des luttes, c'est de sortir l'art de la marchandise.
Mais, oui, non, mais
c'est pas le problème. Voilà. Donc, ensuite, qu'on dise que toutes les expériences que je vis sont déterminées par les conventions dans lesquelles nous nous trouvons. Bon, pourquoi pas, je veux dire. Mon problème n'est pas celui-là. C'est que lorsque un point est identifié de telle manière et va fonctionner de telle manière, va faire fonctionner de telle manière, ma seule solution, ou la seule solution que je peux envisager, c'est d'y fusionner à l'intérieur une méthode de mémorisation parallèle. C'est-à-dire qu'au fond, la façon dont je vais le problème n'est pas de fabriquer une image singulière pour moi. Le problème n'est pas de fabriquer quelque chose qui va sortir de l'affaire. C'est de m'accaparer une méthode de mémorisation qui est aberrante et qui va simplement me faire produire ou me donner la capacité de produire une sensation qui va faire un écart. Voilà. Alors, est-ce qu'on considère ça comme une lutte ou pas? Peut-être pas. Moi, à mon avis, c'est la seule jouable. Et je ne dis pas qu'elle soit sûre. Je viens parler de ça ici dans ce cadre parce que ça s'inscrit dans le cadre des luttes. Je pose l'hypothèse que c'est une possibilité. Par contre, je réfute totalement la possibilité d'engager une lutte à partir de soi. Moi, je réfute totalement la notion de progrès, par exemple. Je crois que la seule chose qui progresse, c'est les techniques de pouvoir. Certainement pas les méthodes pour s'en libérer. C'est toujours la même. Et je crois qu'elle a toujours été celle-là. Voilà. C'est celle du n'importe quoi en plus. C'est la seule solution qu'on ait. Voilà. La mouche.
Juste toujours ce problème-là de cet antagonisme qu'il y aurait entre des choses qui seraient dans le marché et d'autres pas dans le marché. Est-ce qu'on aurait tous les matériaux, pas tous les matériaux, etc. Je trouve que ça ne sert pas le regard sur votre travail que de poser des questions comme ça, puisqu'il y a effectivement cette énorme contrainte qu'on sent, où vous dites, de toute façon, c'est tout à fait désespéré, la seule chose que je vais faire, cette sensation, hein, que vous êtes dans une position comme ça, sans issue, et qu'on peut simplement mettre dans une flaque d'eau une autre image, ou rejouer sur l'identité d'une flaque d'eau par rapport au fait qu'elle reflète une image, etc. Donc un espace comme ça, extrêmement court, où vous faites rentrer des choses, mais le fait d'arriver à le positionner par rapport à d'autres artistes qui n'ont pas le même point de vue, je trouve que c'est très... je trouve que c'est négatif. Oh.
D'abord, vous voyez, je n'avais pas l'intention de venir parler de mon travail, encore une fois. Je ne parlais pas de mon travail, hein, je parlais vraiment de ce dont les gens ici discutent, et de venir parler avec eux, et voilà, je voulais faire cet effort-là. C'est toujours plus agréable de parler de soi, mais bon, je voulais pas. Et par ailleurs, encore une fois, moi, je n'illustrerai pas ce que je viens de dire par le fait de réfléchir une autre image dans la flaque d'eau. Hein. Ce n'est pas du tout ça non plus dont je parlais. Hein. Je ne parlais pas encore des tableaux. Je parlais de la façon dont j'allais concevoir d'un côté la peinture, de l'autre côté la photographie, de l'autre côté le papier sur lequel cette photographie allait s'imprimer, de l'autre côté le support sur lequel tout ça allait venir se mettre, et encore, enfin, ouais, il y en a plusieurs des matériaux, donc il ne s'agissait pas de ça. Mais ensuite, ce petit différentiel-là qui est ténu et qui ne s'est pas désespéré, moi je ne crois pas que c'est une position désespérée. En tout cas, les espoirs supplémentaires me semblent avoir toujours été des illusions, enfin, s'il s'agit de ça. Hein. Par contre, est-ce qu'après, ça peut avoir cette méthode a des conséquences politiques? Ça, c'est une autre question qu'on n'a pas traitée ici. C'est une autre question. Et le domaine, voilà, les rapports de ce que je viens de dire avec la politique, une autre question. Mais bon, on peut toujours essayer de l'aborder, mais à mon avis, il faudrait qu'on se prépare, enfin moi en tout cas, il faudrait que je me prépare beaucoup plus. Je sais où elle se trouve, je sais où ça se situe, là, mais il faudrait que je me prépare beaucoup plus. Enfin, on peut en parler, mais je vais en parler mal, voilà. Ou pas précisément. Je crois qu'il faudrait essayer d'être précis sur ces points-là. Après, on peut toujours vouloir des horizons gigantesques, on peut toujours s'imaginer cavaler seul sur un cheval dans le désert et prouver la liberté dans les chevaux eux-mêmes, quoi. Bon, pourquoi pas, mais c'est un monde, l'île aux enfants, enfin c'est l'île aux enfants, quoi, voilà. Enfin, je la connais pas, cette île. Voilà.
Merci. Anne-Sophie Moreau. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de questions, mais quand je vous ai entendu parler, j'ai pensé à beaucoup de textes de Bergson. Et je trouvais ça intéressant par rapport au séminaire et par rapport à la question qu'on se posait, qui était celle de la mémorisation dans la pratique artistique. Vous avez, puisque nous, finalement, la question, c'était... comment mémoriser, et finalement j'ai l'impression que vous renversez un peu la question, puisque un peu dans la même perspective que Bergson, dans la mesure où il y a une conception de la mémoire comme le passé qui se conserve automatiquement, et où finalement vous vous retrouvez avec toujours le flux de la conscience, et où finalement votre lutte par rapport à ça, ce serait plutôt une lutte contre l'oubli automatique, c'est-à-dire contre une espèce de sélection d'une... quand vous dites que c'est pas de la pensée, c'est-à-dire une espèce de pré-pensée, une forme de découpage du réel selon l'utile, j'avais l'impression de retrouver ça, donc je sais pas si, vous avez employé aussi le terme d'hétérogène, et j'ai l'impression que qu'il y a comme une recherche de l'hétérogène dans la sensation, c'est-à-dire ce que je trouvais intéressant aussi, c'était toute la finalement ce qui fait le paradoxe, et je pense que c'est un peu pour ça qu'on tique aussi, où il y a justement tout ce risque d'une recherche d'une méthode, finalement d'une méthode de lutte, mais qui ne soit pas qui vous dites vous avez une méthode du n'importe quoi, et en même temps vous voulez pas que ce soit du n'importe quoi, puisque ça doit être une méthode, et qui ne soit pas un sensualisme pur, et on retrouve toute une ambiguïté entre une passivité de votre effort de mémorisation, qui est un effort de presque, je sais pas, démémorisation, vous essayez de perdre cette mémorisation toute faite pour dans un espèce de... Bergson, il parle beaucoup d'un espèce d'effort de la détente aussi, c'est-à-dire... Il y a un véritable travail dans le fait de détendre la mémoire, d'étendre les souvenirs pour vous avez parlé aussi de dilater, je sais plus, dilater. Oui, voilà, dilater le temps de long avec évidemment toute cette notion de durée. Et j'ai l'impression que vous avez, votre conception de la lutte, elle est assez modeste finalement, mais assez en phase avec cette difficulté là. Donc où finalement la lutte, ce serait une sorte de lutte contre l'ennui, tout simplement, d'une sensation qui soit déjà... Enfin, d'une sensation qui soit déjà prédécoupée. Enfin.
J'ai pas lu Bergson. Je sais que je vais le lire et que ça va beaucoup me passionner. En fait, la méthode dont je parle, c'est pas n'importe quelle méthode. La méthode n'est pas n'importe quoi. C'est la méthode du n'importe quoi. Et donc, la lutte a un objet, elle est dans la façon dont on mémorise les choses. Voilà. C'est-à-dire que là où on se soumet, au fond, c'est qu'on adopte, pour mémoriser les sensations, ce qui déjà est écrit en elles pour les mémoriser. Et qu'est-ce que c'est qui est écrit en elles pour les mémoriser ? Quelle est la fiche technique de mémorisation d'une sensation ? Eh bien, c'est la fiche technique en miroir
par laquelle la sensibilité a fabriqué cette sensation. Hein, voilà, c'est ça mon idée, c'est que finalement, je perçois quelque chose, c'est un mouvement, c'est pas immédiat. Il y a un mouvement, il y a un enchaînement d'actions qui va fabriquer ce que j'ai perçu et la sensation que ce que j'ai perçu me procure. Eh bien, je pense, mais je suppose que la façon dont je mémorise ça, donc la façon dont je vais reconstituer les actions, est exactement la même manière dont la sensibilité a fabriqué cette sensation. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Alors, peut-être...
Je pense que c'est dépend de la façon dont vous définissez la sensibilité comme passivité ou comme un espèce de miroir, justement, de, ouais. Justement du, enfin, des pouvoirs, des savoirs. Bah,
la sensibilité, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est...
Ni à l'intérieur de moi, ni à l'extérieur de moi. Enfin, je veux dire, elle est précisément réflexive, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas m'y identifier, parce qu'elle est travaillée par tout le reste, essentiellement, et elle est transformée en permanence aussi par tout le reste. Et le soi, ou cette espèce d'objet grammatical ou syntaxique qui est le moi, qui essaierait d'avoir une action sur cette sensibilité pour qu'elle me ressemble plus, qui est à mon avis l'action du dandy, en fait, ou la volonté du dandy, elle ne peut être que différée de ma volonté. Donc je suis obligé d'inventer des trucs pour le faire. Voilà. Je suis obligé d'inventer des méthodes pour le faire, qui sont des méthodes indirectes, qui vont avoir une influence sur la sensibilité de manière indirecte. Influence dont je ne contrôlerai pas l'effet. Par contre, l'effet dont je suis sûr, c'est qu'il va faire varier les modes de mémorisation de cette sensation. Voilà. Et là... Est-ce qu'il y a lutte ? Est-ce qu'il y a... Je ne crois pas, encore une fois, moi je ne crois pas du tout qu'il y ait désalignation, libération, je ne sais pas quoi. Je crois juste que c'est l'issue dont parle Kant, fait Ausgang. En fait, c'est une issue parmi d'autres, parce que précisément, à cette sensation rajoutée, j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Voilà. C'est...
Alors, c'est très passionnant parce qu'en fait, dans 15 jours, alors je ne sais pas si tu serais libre, parce que vient... un artiste allemand qui s'appelle Alexander Schello. Donc tout le travail se fonde sur le fait que dans le processus de mémorisation, il y a un effet de coupe automatique. C'est-à-dire qu'en fait, une espèce d'automatisme, il y a un effet de césure qui fait que toutes les trois secondes exactement, césure. C'est-à-dire qu'on arrête de mémoriser. Et que donc, au fond, on ne peut spéculer que sur 3 secondes. Pour analyser hein, ce processus de mémorisation et aussi sur le fait qu'il y a cette espèce d'automatisme. C'est-à-dire non seulement, j'allais dire, il y a un automatisme, non seulement il y a une sélection préfabriquée, on va dire, hein, c'est-à-dire que la sensation est beaucoup faite avec du préenregistré, hein, mais en plus de ça, la manière dont nous mémorisons, hein, au niveau de l'appareil lui-même, pulsionnel, et de transcription, etc., est un appareil qui est un appareil ascension, et dont tout le travail se fonde sur cette ascension-là. Et je pensais à ça, d'une part parce qu'effectivement, je pense que ces deux séances vont résonner de façon très intéressante, mais aussi parce que ce que tu emploies comme expression, et là je poursuis sur la remarque de Anne-Sophie Moreau, lorsque tu parles de dilater le temps de la perception, il me semble que toute la question de la méthode, elle est là, en fait. Hein,
c'est l'effort.
Enfin, je veux dire, en tout cas, la question, c'est de savoir comment on peut faire pénétrer des médiations, des obstacles, on va dire, hein, dans l'effectuation de l'identification, voilà. De telle manière que ça fasse traîner le process.
Voilà.
Bon, ça, je comprends très très bien, puisqu'au fond, dans l'écriture, on n'arrête pas de faire ça, et, par exemple, par le moyen de la réécriture. C'est-à-dire comment, en réécrivant ce qu'on a écrit, on freine chose. Ou au contraire, on peut le faire d'ailleurs aussi bien en accélérant. C'est-à-dire, comment en se refusant le plaisir complaisant de l'analyse, on force le process à aller très vite et on cristallise trop vite d'une certaine façon. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est toujours des histoires de temps, hein, la question de la pratique. Ça j'en suis tout à fait convaincue. Mais très précisément, bon, j'arrive bien à comprendre pour ce qui est de l'exercice spéculatif, quels sont les obstacles qu'on peut interposer entre l'enregistrement et préenregistrement, on va dire. Pour ce qui est de la pratique plastique, le problème, c'est de se dire qu'est-ce qui ne serait pas un objet temporel, tu vois, c'est-à-dire au fond, de quoi tu te sers qui ne serait pas un objet temporel qui te permettrait de de faire traîner. Parce qu'au fond, pour que la médiation soit efficace, hein, pour qu'elle fasse traîner, il faut qu'elle-même ne soit pas temporelle. Est-ce que ma question est claire?
J'essaye de voir si j'ai bien compris, je réfléchis. Hein. En fait, il s'agit de prendre justement deux temporalités, enfin deux sensations qui ont des temporalités différentes. Mmh. Voilà. En fait, le rajout, toi tu parles d'obstacle. Bon, pourquoi pas, mais cet obstacle serait précisément de rajouter d'autres, des procédures d'effectuation qui ont une autre temporalité, un autre rythme de mémorisation, et que donc, en trouvant par où connecter donc, ces différentes sensations, donc soit sur les propriétés, soit sur les procédures, soit sur les savoirs, je vais donc devoir faire une temporalité binaire, en fait, qui considère les deux tempos de sensations différents. Alors, est-ce que c'est... On ne sort pas de la temporalité, mais ça fait une temporalité incohérente par rapport à la mémorisation, en tout cas. Et que donc, je suis obligé de faire des schèmes de mémorisation qui va utiliser les deux temporalités. Et donc, faire j'utilise une méthode, je vais fabriquer, enfin, la sensation, la sensibilité qui fabrique la sensation va fabriquer du coup une méthode, une temporalité de mémorisation aberrante. Simplement, il ne s'agit pas de trouver un objet atemporel sur lequel je pourrais m'appuyer comme la conception d'un soi, justement, qu'on est depuis la naissance jusqu'à maintenant, mais une autre sensation qui appartient à une autre époque, à un autre moment, ou pas, mais aussi, surtout, qui concerne des propriétés externes différentes, peut-être du visuel sur l'auditif, et des méthodes de mémorisation tout à fait différentes, ont besoin d'un lieu ou pas, qui ont... Voilà.
Dans ces cas-là, on peut définir la pratique comme une objectivation de la temporalité.
Mais est-ce qu'on peut appeler ça aussi une hétérogénèse, hein, pour reprendre un terme de Guattari?
Je connais mal alors.
C'est-à-dire la genèse, c'est une production, et qui se fait effectivement avec différentes logiques, différentes sensations, différents temps, comme pourrait le fait à la fois l'inconscient, et lui, il avait pris comme exemple aussi. Il aimait bien prendre l'objet, je crois, transitionnel, parce que l'objet transitionnel, c'est l'objet qu'utilisent les enfants pour se couper, justement, pour se, à un moment, suspendre le signifiant des parents. Et que là, ils peuvent s'agréger n'importe quoi.
C'est possible, oui, ben c'est possible.
Et quand vous parlez de monstres, des choses comme ça, je crois que c'est vraiment ça, et qui greffe, en effet, du subjectif, de l'autre, et sans... différenciation, sans discrimination.
Avec égalisation.
Absolument.
Oui, mais je ne connais pas ce concept, mais ce que vous dites...
Ça s'appelle... Enfin, dans Gauss,
le
terme de Gauss.
Le monstre, l'objet conditionnel,
non, il utilise le terme de... Enfin, il utilise à un moment l'objet conditionnel, hein, parce que c'est un objet qui permet aux enfants de se détacher... Voilà, et un moment de prendre un peu de champ par rapport aux parents. Et que cette autonomie, il dit, mais l'inconscient, il travaille aussi comme ça. Il faut penser des subjectivités, parce que pour lui, c'est ça en fait la lutte, pour essayer de s'affranchir, prendre de la distance vis-à-vis du signifiant, ou de l'autorité, ou de la science, ou du savoir. Justement, ce savoir qui va permettre d'analyser l'objet. Et de maintenir l'opposition objet-sujet ou science, etc. Cet objet qui justement se distancie du signifiant va permettre en fait toutes les dérives ou tous les buissonnements possibles, etc. Sans qu'il y ait une structure, sans qu'il y ait un signifiant qui dit oh là, attention, vous avez franchi les barrières. Il y aurait une espèce de liberté. Et toi, il l'associe complètement à l'art aussi, comme la production artistique, il l'associe justement à ces chaosmos, Galilée, et le terme de chaosmos en dit long aussi sur le chaos et du cosmos, de l'os. C'est chaosmos, OS. Et dans les trois écologies, il en parle aussi.
Je ne connais pas ça répond, mais je
enfin, moi, je crois qu'effectivement, là, vous approchez de ce qu'il... Pardon.
encore une question ? Non ? Bon, moi je ne veux pas poursuivre sur la mienne parce que ça va devenir trop spéculatif et pour 3 minutes. Voilà, on en discutera dans l'avion. Je crois que là on est vraiment au cœur, comme vous le disiez, de la question du séminaire, c'est-à-dire de la question de la mémorisation, puisque au fond ce qu'on s'est dit c'était que. Je voudrais juste dire quelque chose, parce qu'effectivement le mot de lutte c'est le mot qui est employé par Foucault, mais c'est vrai qu'on a beaucoup envisagé plutôt la question de la suspension, comme tu disais, hein, la question de la. On a envisagé la question de la, de la suspension, du détournement, hein, et qu'on a envisagé la critique de ce point de vue-là, et donc. Pas du point de vue de ce qui serait des luttes, j'allais dire au sens lutte contre, hein, il ne s'agit pas de ça, enfin je veux dire au sens, pas dans une sorte de frontalité ou d'effectivité comme ça, bon. Dominique, merci parce que c'était vraiment fondamental, j'espère que tu auras le temps de revenir. Si effectivement pour la séance de Chello le 18 tu pouvais revenir, je crois que ce serait très passionnant. Ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine prochaine, j'aurais bien aimé, parce qu'il y avait aussi un élément là qu'on n'a pas du tout développé dans ton topo, c'est tout ce que tu as dit sur le flâneur et le dandy. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on reprenne ça, et j'avais commencé à parler avec Gabriel de la possibilité de revenir sur Baudelaire. Et j'aimerais bien peut-être que vendredi prochain, on revienne sur Baudelaire, parce que je trouve que là, on avait commencé à élaborer, hein, cette question, et j'aimerais bien qu'on la creuse. Par ailleurs, il y a eu vos questions, hein, qui étaient tout à fait intéressantes, qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Donc ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on revienne, hein, sur un ensemble de questions qui n'ont pas été suffisamment élaborées, à mon sens, qu'on redéveloppe aussi ce qu'a dit Dominique, qu'on mette peut-être en relation ce qui a été dit par Pierre, ce qui a été dit par Dominique, qu'on revienne sur la question du soi et de l'intériorité, hein, qu'on fasse une espèce de petite de ressaisie, hein. Moi je vous proposerai quelque chose dans cette perspective, et j'aimerais que chacun de vous, hein, puisque finalement essaie de formuler les questions qui se posent, hein, peut-être de manière d'ailleurs à la limite en les écrivant, hein, pour qu'on arrive comme ça à ressaisir un peu le matériau, parce que c'est vrai que ce soit la semaine dernière ou aujourd'hui, finalement les invités nous ont énormément donné, hein, et que je pense que, bon, ensuite le travail c'est de s'en ressaisir, de se réapproprier, de l'arriver à le réinjecter dans la problématique, de telle sorte que finalement la seconde phase du séminaire nous permette de déplacer cette problématique, la faire avancer, hein, moi c'est en tout cas ce que je souhaite, hein. Donc on se retrouve la semaine prochaine, hein, et on poursuit dans cette direction-là. Voilà, merci.
Merci d'avoir parlé avec moi. Merci beaucoup.